Bonsoir et bienvenue, chers thalas et amis. Il n'est pas déjà temps de tomber endormi dans la digestion de cette guépitance, car nous avons ce soir pour notre conférence David Rabourdin qui, de Normale à Lyon, fut appelé par Dieu plus au Septentrion. Ce soir donc, par les mots de cet abbé habile, cherchons la liberté, conquête difficile.
Merci pour cette très sympathique invitation. Je suis hyper heureux de vous rejoindre ce soir pour, il me semble, achever ce cycle de réflexion sur la liberté, puisque la semaine prochaine, ce ne sera pas une conférence, puis ensuite, après, il y a autre chose, et au deuxième semestre, il y aura encore autre chose. Et donc, voilà, donc, j'espère que vous avez pu profiter de ces explorations sur cette grande notion de la liberté qu'on peut prendre de tant de manières. Alors moi, je vous propose du coup la plongée dans un auteur que j'ai travaillé particulièrement, qui s'appelle Claude, c'est son prénom, et son nom c'est Bruaire, B-R-U-A-I-R-E, un homme qui aurait pu être encore vivant aujourd'hui, qui est mort un peu trop tôt, qui est mort en 1986, à 54 ans. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des gens qui l'ont connu, je pense à... Il y a certains, pas vraiment des héritiers, mais des gens de la génération un peu en dessous qui l'ont bien connu, notamment quelqu'un comme Jean-Luc Marion, Vincent Carreau, tous les fondateurs de Communio, donc des anciens, des archithalas, qui ont du coup eu Claude Bruaire comme professeur et un peu comme un point de repère pour leur propre formation intellectuelle. Même si Claude Bruaire n'a pas du tout fondé d'école, il n'a pas... exercer d'influence directe sur des disciples. Il n'a pas eu de prise sur des intelligences. Il a beaucoup accompagné, je pense, mais il enseignait de manière très, très libre. Il avait la chaire de métaphysique à Paris 4, donc de la fin des années 70 jusqu'à sa mort, jusqu'en 86. Il a fait une thèse sur Hegel, sa thèse complémentaire, et sa thèse principale, c'est un essai un peu foisonnant qui s'appelle « L'affirmation de Dieu », qui est un essai pour démontrer que Dieu existe à partir d'une résolution des dialectiques internes à une personne humaine. En gros, mon existence est déchirée, donc je dois faire le constat de cette existence déchirée. Après, je me dis comment je vais mettre cette existence en ordre, et mon essai de mise en ordre s'achève dans la désignation de celui qui, d'en haut, va me donner la clé de la mise en ordre. Donc, de ce point de vue-là, il se place dans la tradition de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Maurice Blondel, qui lui aussi a posé la grande question « Oui ou non, la vie a-t-elle un sens et l'homme a-t-il une destinée ?» qui est le commencement de la thèse de Blondel, qui est soutenue en 1893, qui s'appelle « L'action ». « Oui ou non, la vie humaine a-t-elle un sens et l'homme a-t-il une destinée ?» Et cette question, Bruaire va la faire sienne au début de sa propre thèse. « Oui ou non, l'affirmation de Dieu a-t-elle un sens ?» Donc il reprend cette même question. C'est un hommage hyper lisible. Donc je vous propose de plonger un peu dans sa pensée à partir de la notion de liberté. En fait, l'enjeu de ma thèse était de montrer que la liberté était sans doute... la clé d'articulation de son œuvre. Mais au-delà de questions de savoir comment est-ce que l'œuvre de Bruaire est construite, ce qui m'a plu dans ce travail que j'ai fait de 2018 à 2022, quand j'étais vicaire à la Trinité, c'est de travailler un peu de près cette notion de liberté et d'en ressortir avec une armature conceptuelle que je vais essayer de vous partager. Donc c'est soirée philosophie, mais je sais que vous n'êtes pas tous philosophes, mais je pense que vous pouvez tous arriver à cette armature conceptuelle qui est relativement simple et qui est néanmoins puissante. Si vous voulez, j'ai amené un exemplaire de la thèse, vous pouvez le faire passer pendant que je parle, comme ça vous pouvez feuilleter ça. Ouais, c'est ma thèse.
Elle est déjà sortie.
Mais elle est sortie il y a longtemps, elle est sortie en juin 2022. En juin 2022. Voilà. Alors, je pars d'une simple définition donnée par Bruaire de la liberté, une définition qui est instable. Donc, définition de départ. Être libre, c'est se libérer de tout, sauf des conditions de la liberté. Magnifique formule, qui ouvre plein de questions. Être libre, d'abord, apparaît comme un se libérer. Et même un se libérer de toute chose. De ce point de vue-là, on peut dire que la liberté s'inscrit dans un tout ou rien. Soit t'es libre, soit t'es pas libre. Davantage, cette liberté va se conquérir sur la non-liberté. Être libre, c'est se libérer de ce qui m'empêche d'être libre. Donc la liberté apparaît dans un premier visage qu'on peut appeler le visage de la libération. La liberté, c'est d'abord la libération. Libération. Je pense que de ce point de vue-là, Claude Bruyère, en définissant la liberté ainsi, essaye d'épouser la conscience contemporaine. La conscience de la liberté, c'est d'abord la liberté comme libération. Elle est perçue en tout cas comme force de dégagement. Force de dégagement. Alors après, Claude Bruyère met cette deuxième partie qui change tout. Donc c'est se libérer de tout, sauf des conditions de la liberté. Quelles sont les conditions de la liberté ? Donc ça, voilà une belle question philosophique, métaphysique, peut-être même aussi une question spirituelle qu'on peut prendre aussi dans notre prière, et même dans notre conception du monde, de dire, au fond, quelles sont les conditions d'une liberté ? Ça veut dire que dans le tout, il y a peut-être des entraves à la liberté, mais dans le tout, il y a peut-être aussi ce qu'on va appeler des adjuvants, des porteurs de la liberté. Alors, pour les nommer, moi, j'ai pas étudié ça, mais ça serait l'objet de ramifications dans la thèse. Il a écrit une philosophie du corps, qui est un livre assez difficile, mais le corps, voilà une condition de la liberté. Le corps peut être amoindri, il peut être handicapé, il peut être violenté, et tout ça rejaillit sur la liberté, mais le corps restera comme une condition principale de la liberté, à un point tel que nous confessons la résurrection des corps, comme si la liberté plénière imposait encore le corps. Une deuxième condition de la liberté, c'est un peu plus loin que le corps, c'est un système politique. Donc là, il y a un deuxième livre un peu latéral de Bruyère qui s'appelle « La raison politique », où il va essayer de dire la raison d'être du politique, c'est de porter la liberté des personnes, de promouvoir la liberté. Alors après, comment faire, etc. Bruyère n'est pas il n'écrit pas une constitution idéale, mais il essaye de problématiser le politique comme étant le lieu où doivent se décider les conditions de la liberté. Voilà. Et puis il y a, peut-être pour le coup plus intérieur, plus proche de nous, les conditions de la liberté, ce seront des conditions complexes, et on va un petit peu entrer là-dedans. C'est deux autres puissances que sont le désir et le langage. Pour que la liberté soit liberté, elle a besoin de prendre appui sur un désir. Désir, c'est pas exactement la liberté, mais ça a partie liée avec la liberté. Il y a comme un dialogue qui s'enclenche dès l'enfance entre désir et liberté. Ce dialogue peut être violent. Le désir est là pour... Je peux commencer par dire... Ok, ma liberté, c'est de suivre mon désir, et puis je commence à suivre tous mes désirs, et je me rends compte que je ne suis pas libre, parce que je suis asservi à mes désirs. Et du coup, je dis, ok, ma liberté va reprendre le lead dans cette relation instable, et dire, je voudrais librement désirer de ce dont j'ai envie de désirer. Et donc, du coup, je me pense me rendre maître de mon désir, et là, pareil, je vois un désaveu. En fait, le désir ne se commande pas tant que ça. En tout cas, il est plus obscur qu'une pure décision. L'autre condition de la liberté sera le langage. Le langage, parce que c'est le lieu où la liberté va pouvoir s'exprimer. Et en même temps, quand j'utilise le langage, j'utilise des mots qui ne sont pas tout à fait les miens non plus. Donc est-ce que je me reconnais tout à fait dans le langage commun, notamment quand il devient comme un grand code qui décide à ma place ? Donc du coup, la liberté va s'enfermer dans l'ineffable ou dans le mutisme. Donc voilà, donc tout ça, c'est bienvenue dans la philosophie de Bruyère, qui dit, la liberté, comment est-ce que je vais... Dépasser la seule liberté, libération, pour essayer d'examiner les conditions de la liberté, en fait pour la promouvoir. Est-ce qu'il est possible que la liberté se brûle les ailes, qu'elle scie la branche sur laquelle elle est assise, puisqu'elle veut se libérer de tout, et donc elle se libère des conditions de sa liberté. Et donc dans ce cas-là, elle se perd elle-même. Donc ça, c'est la première définition. Être libre, c'est se libérer de tout sauf des conditions de la liberté. La liberté est donc libération, et on peut retenir cette image de la liberté comme pur vecteur qui veut aller vers un maximum. Maximum de liberté. Vers ce qu'on peut appeler l'indépendance. Et donc être libre, c'est être indépendant. La liberté, c'est l'indépendance. C'est le pouvoir de dire non aussi. Le pouvoir de dire non. Après, quand même, assez vite, on se dit, mais au fond, c'est une image un peu partielle de la liberté. Il y a quand même une autre comme un complément. On ne peut pas réduire la liberté à ce mouvement de dégagement qui apparaît tout d'abord, je me dégage d'eux, de libération à l'égard de ce qui n'est pas elle, ce perpétuel mouvement qui porte à se libérer, à se rendre indépendant. Parce qu'il y a un autre mouvement qui apparaît tout de suite, c'est le mouvement de se déterminer. Donc être libre, ça n'est plus se dégager, mais s'engager. Ça n'est plus la force du non, mais la force du oui. C'est autour de la notion de consentement se jouent ces deux forces qui composent la liberté. On voit à notre époque, notamment dans la relation homme-femme, combien le consentement est quelque chose de clé. On recharge une réflexion du consentement en ce moment. Très intéressant, parce que le consentement a aussi des portées métaphysiques énormes. Alors des portées sacramentelles, en fait, il n'y a pas de mariage sans consentement. En fait, la notion de consentement, comme chrétien, on peut pas en faire l'économie. Et puis, au niveau métaphysique aussi, moi, je donne des cours de métaphysique, j'essaye de dire à mes élèves, en fait, la connaissance de l'être se fait par un consentement. C'est par consentement que je connais l'être. Parce que, en fait, je me mets à regarder quelque chose que je n'ai pas créé moi-même, ou sur lequel je n'ai pas vraiment de prise. Voilà. Donc, du coup, on sent que la liberté ne veut pas être simplement une puissance du non, mais aussi une puissance du oui. Donc c'est l'autre mouvement, c'est celui de se déterminer. Et même en fait un troisième mouvement ou un troisième moment, donc on a l'indépendance, on a la détermination, et puis il y a même peut-être, au fond, être libre, est-ce que ce ne serait pas, alors paradoxalement, mais vous allez très vite sentir ce que je veux dire par là, un se laisser déterminer, qui serait le sommet de la liberté, qui est tout sauf la négation de la liberté, pourvu que je me laisse déterminer par une liberté. Qui est éventuellement la liberté de mon créateur ou de mon sauveur. Il y a cette phrase magnifique de Paul Claudel dans l'une de ses cinq grandes odes, la troisième, le Magnificat, au détour d'une page saturée de poèmes type le poème qui m'a accueilli dans cette salle, Claudel, quoi. Il dit « Heureux non pas qui est libre, mais celui que vous déterminez comme une flèche dans le carquois. » Magnifique phrase. Heureux non pas qui est libre, mais celui que vous déterminez comme une flèche dans le carquois. Le sentiment que j'ai quelquefois dans mon existence d'être saisi par Dieu, d'être déterminé par lui, de répondre à une vocation, et je deviens comme une flèche dans son carquois, à lui, comme dit le psaume. Voilà, et là c'est intéressant parce que là il y a un se laisser déterminer, puisque c'est celui que vous déterminez. Donc c'est même plus un se déterminer, s'auto-déterminer. Mais c'est comme un se laisser déterminer qui est peut-être paradoxalement un visage de la liberté. Alors pour ça, il va falloir faire un petit peu de chemin philosophique. Mais en tout cas, ce qu'on peut garder de cette troisième étape, donc l'indépendance, le se déterminer, et puis peut-être un se laisser déterminer, c'est que la liberté va peut-être vers un sommet lorsqu'elle est dans un face-à-face de deux libertés, notamment de la liberté divine et de la liberté humaine. Il y a quelqu'un qui l'a pensé, ça aussi, c'est un philosophe du 19e siècle qui s'appelle Hegel, un grand philosophe alors avec lequel Bruyère a bien discuté. Mais si je prends le paragraphe 82 de son encyclopédie, la remarque, il dit que la plus haute liberté à laquelle l'homme est destiné, c'est d'entretenir un rapport avec l'absolu. La plus haute liberté à laquelle l'homme est destiné, c'est d'entretenir un rapport avec l'absolu, avec l'esprit absolu, avec Dieu. Et Hegel dit en passage « Voilà une idée venue dans le monde par le christianisme, l'idée de la valeur infinie de chaque être libre et l'idée que cette vocation de chaque être libre est d'entretenir un rapport avec l'esprit absolu, avec l'esprit de Dieu. » Je trouve que c'est une très très belle idée. Après, là où Hegel, on peut discuter avec lui, et Bruyère discutera avec lui, c'est qu'il dit « Ce rapport avec l'esprit absolu, on l'entretient premièrement et principalement dans la religion en tant que telle. » Donc ça, nous, on est OK, on valide. Et après, il dit, on l'entretient aussi dans les institutions étatiques et dans la famille et tout ça. Alors, ce qui est vrai en partie, Mais disons qu'il a, il y a une présence de l'esprit de Dieu qui est, enfin, dont on peut discuter, mais bon, ça, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais en tout cas, par ces trois étapes, l'indépendance, l'autodétermination et ensuite le rapport avec Dieu, par ces trois étapes, une petite philosophie de la liberté voit le jour progressivement, sous trois titres au moins. Premièrement, la liberté, c'est un se dégager, se rendre indépendant. Elle est de ce point de vue conquête. La liberté est une conquête. C'est vraiment la figure contemporaine, ça. C'est de la non-liberté à la liberté. Conquête. Elle est libération. Elle est aussi un s'engager. Et puis, elle est enfin un écouter et un répondre face à face avec une autre liberté. Mais le passage d'un point à l'autre, notamment le passage du point 1 au point 2, et puis du point 2 au point 3, ne va pas sans risque, sans un double risque du coup. Du point 1 au point 2, passer de l'indépendance au se déterminer, on pourrait dire, mais en fait, c'est perdre sa liberté. Quand je me détermine, ben, je choisis, du coup, je perds ma liberté. Je suis fiancé, je me marie, je suis plus libre. Je me mets à genoux dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, je m'allonge même, cathédrale de Paris, le 24 juin 2017, et je suis plus libre. Je suis pieds et poings liés. D'ailleurs, une belle figure, c'est assez marrant, mais qu'en fait, quand on est ordonné, et on est le père Maxime pourra vous raconter ça, mais on est à genoux, et allongé, on est à la prostration, et puis on met nos mains comme ça, on met nos genoux, nos pieds, moi on m'avait dit à la répétition qu'il fallait coller les talons et laisser les pointes écartées, ça fait un truc un peu comme ça, quoi, vu de la caméra, et il est important que tout le monde fasse pareil, quoi. Enfin, donc vous regarderez aux prochaines ordinations, si ça vient, les talons collés. Voilà. Mais en tout cas, on est comme ça, puis on a le nez qui touche le carrelage. Et pendant ce temps, on chante la Litanie des Saints. Enfin, plutôt, il chante la Litanie des Saints. Parce que toi, quand t'as la tête contre le carrelage, tu peux pas chanter. Puis en plus, tu peux pas te respirer, tout ça. Donc, du coup, je chante pas. C'est intéressant parce que c'est le moment où on dit, bah, en fait, à ce moment-là, on est comme quelqu'un qui est au tombeau, en fait, parce qu'on renonce à soi-même. Voilà. Donc, si on dit, bah, c'est ça, se déterminer. En tout cas, c'est un des symboles du se déterminer. Après, il y a des se déterminer qui sont dans tous les petits choix quotidien, mais en tout cas, on dit, bah, c'est perdre, c'est amoindrir sa liberté. Donc, s'engager, n'est-ce pas contraindre, amoindrir, voire perdre sa liberté, son indépendance, de l'indépendance à la détermination. Et puis, encore plus, du 2 au 3, écouter et répondre au point de se laisser déterminer par une autre liberté que la mienne, n'est-ce pas, là aussi, perdre son indépendance et sa capacité à se déterminer. Donc là, pour le coup, c'est la perte totale de la liberté. Heureux, non pas celui qui est libre, mais celui que vous déterminez comme une flèche dans son carquois. On a donc l'image d'une liberté perpétuellement instable. Elle doit sans cesse se gagner, se libérer de tout, mais au moment où elle est indépendante, elle n'a rien commencé puisqu'elle doit se déterminer. Au moment où elle se détermine, elle peut se perdre ou se renier. Alors en plus, elle est encore plus instable que ça. Parce que le risque pour elle, c'est de s'absolutiser, se libérer de tout, au point de se considérer absolu. Absolu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire délié. Donc si la liberté possède cette espèce de force intrinsèque de se délier, à un moment, elle est très contente, elle est toute déliée. Toute déliée. Donc là, à un moment-là, elle se dit, mais en tout cas, c'est ce que Bruyère a posé la question, il dit, mais au fond, une des questions philosophiques principales, c'est pourquoi je ne suis pas Dieu ? C'est une belle question philosophique, parce que c'est en gros, si je fais confiance à ce mouvement en moi de me libérer, ben j'arrive à un moment où en fait, je devrais être totalement libre. Donc du coup, je suis Dieu, quoi. Et de fait, alors, ce qui est intéressant, c'est que la liberté, c'est tellement tout ou rien que si on dit mais Dieu est libre et l'homme est libre, ben, du coup, en fait, l'homme, il est comme Dieu quand il est libre. Alors il y a un très beau thème, alors on pourrait dire c'est thème, enfin, on pourrait le développer pour lui-même en regardant la tradition de l'Église. Moi, j'avais fait un petit peu en m'arrêtant un moment sur le moment Saint Bernard. Mais Saint Bernard dit que ben, l'image de Dieu dans l'homme, quand on dit ben, il nous a fait à son image et à sa ressemblance, l'image de Dieu dans l'homme, ben, c'est la liberté. Parce que c'est là où l'homme ressemble le plus à Dieu. Et Claude Bruyère va beaucoup travailler cette espèce de sentiment ou d'expérience ou de pressentiment d'être absolu. Et il dit, ben en fait, dans chaque liberté, il y a comme une étincelle d'absolu qui vit. Et en fait, d'ailleurs, c'est peut-être même à cause de cette étincelle d'absolu qu'on expérimente dans notre liberté qu'on a peut-être une idée de l'absolu. C'est intéressant. Alors, je trouve ça intéressant. Voilà. Et donc, du coup, on voit l'enjeu de ce double passage de l'indépendance à la détermination et puis à la relation. On ne peut pas faire résider dans le mouvement de libération un terme absolu. Il faut aller de l'indépendance, de cette libération, à un engagement. Parce que là, à ce moment-là, on retrouve le monde, on retrouve les autres, on retrouve les limites, on retrouve tout ça. Voilà. Donc il y a quelque chose de divin dans cette première note d'indépendance. Et donc l'enjeu, c'est de passer à la détermination, voire même à la relation avec l'esprit absolu, pour pouvoir en fait stabiliser ce que c'est que cette liberté. Alors je m'arrête un petit peu sur cette double aporie de l'indépendance dont je vous ai parlé à l'instant. Une aporie, vous savez, c'est un truc qui n'a pas d'issue. L'indépendance, le moment de l'indépendance, le se libérer de tout, tout court, lorsque ce moment-là est considéré comme étant le seul moment exhaustif, hein, qui récapitule notre liberté, à ce moment-là, il y a une impasse, et même une double impasse. Parce que cette figure de la liberté indépendance, en fait, je vais pouvoir soit l'appliquer à moi-même, soit l'appliquer à Dieu comme étant le seul vraiment libre. Et à ce moment-là, il est indépendant, donc il est délié de tout. Alors, donc la double aporie, elle ressemble à ça. D'abord, mettons l'indépendance de l'absolu. L'absolu, donc c'est le seul à être libre. Il est d'ailleurs tout à fait indépendant. Son nom l'indique, il y a écrit dessus, c'est comme le port-salut. L'absolu, il est délié de tout. Il est délié de tout. Donc du coup, il devient très vite... L'absolu, il devient très vite le sans-rapport par excellence. Dieu, c'est le sans-rapport. Dieu n'a rien à voir avec nous. Dieu ne se mêle pas des affaires humaines, disait déjà Platon à son époque. Les dieux ne se mêlent pas de ta anthropa, autre anthropina, pragmata, enfin, des affaires humaines. Il ne se mêle pas de ça. Il est le délié. Donc il est, alors ça c'est le thème du tout autre, de l'étranger, de l'absent. Et donc Bruyère a une espèce de critique de la raison contemporaine en disant mais en fait la raison contemporaine ou la métaphysique commune, c'est-à-dire non confessionnelle, c'est réfugiée derrière cette excuse de dire ben on va penser le monde et si Deus non daretur, comme si Dieu n'était pas donné, surtout qu'en fait comme s'il ne pouvait pas par sa nature même intervenir dans les choses humaines. Donc du coup derrière cette espèce d'état de la culture, Bruyère diagnostique une sorte de fausse image de la liberté, où la liberté est pensée comme seule indépendance, comme pure indépendance. Voilà, c'est la pensée d'un Dieu comme absent. C'est l'être suprême, mais cet être suprême, il regarde pas. Mais vous avez déjà ça chez Aristote, en fait. L'être suprême, le bien, il n'a pas de partie liée avec ce monde sublunaire qui est si imparfait. Alors, pour combattre cette idée-là, alors je le dis un peu trop rapidement, et Bruyère n'est pas un combattant, même si sa philosophie est quelquefois combative, mais en tout cas, pour adresser, on dirait en franglais, mais pour adresser cette objection, il a cette phrase que je vous livre, et qui dit cela. Et donc, dans ma thèse, j'avais essayé de montrer, toute ma première partie, c'était pour essayer de montrer la centralité de cette phrase-là, dans l'œuvre de Bruyère. Si l'absolu n'est pas absolument libre, alors il n'est pas absolument absolu, donc pas absolu. Ça va ? Alors on reprend. Si l'absolu n'est pas absolument libre, alors il n'est pas absolument absolu, donc pas absolu. Le problème, c'est qu'on pense l'absolu tout court comme étant du coup le délié par excellence. Mais cet absolu, s'il est vraiment absolu, alors il faut penser qu'il est absolument absolu. Il est vraiment absolument absolu. Donc on peut très bien mettre l'absolu au carré, ça ne change rien, c'est juste honorer davantage son absoluité. Mais un absolument absolu, il doit être absolument libre. Et donc, pour Bruyère, libre d'entrer en relation. Donc le Dieu, si on va vraiment au fond de ce concept d'absolu, on ne peut pas s'en tenir à la définition de l'absolu comme sans rapport, ou l'absolu comme l'indifférent. Il faut pouvoir penser dans l'absolu, une absolue liberté, et justement, par ailleurs, le travail de Bruyère va dire que les libertés n'est justement pas la toute indépendance, mais aussi la capacité d'entrer en relation. Donc Dieu a cette capacité, ça fait partie de son absoluité, d'entrer en relation, d'entrer dans les choses humaines. Donc voilà pour la pensée séculaire de la philosophie, pour Bruyère qui dit, mais non, en fait non, si l'absolu n'est pas absolument libre, alors il n'est pas absolument absolu, donc pas absolu. Ça va ? C'est intéressant quand même, bon, c'est marrant, et je trouve que c'est assez stimulant. Alors derrière, c'est un peu un travail de ma thèse aussi, à ce moment-là, il fallait que je montre que cet algorithme bruyérien, là, si l'absolu n'est pas absolument libre, alors il n'est pas absolument absolu, donc pas absolu, en fait c'est calqué sur une progression de l'analyse du concept chez Hegel, où le concept commence par être, ensuite il est essence, et après il est concept. Donc pour ceux qui, juste pour les spéphilos parmi vous, y a une espèce de dans ce rythme-là, dans cette formule-là, il y a une cadence hegélienne. Voilà. Mais donc la deuxième aporie de la dépendance, elle va se jouer non pas au niveau de Dieu, qui va du coup être le parfait étranger, mais au niveau de chaque liberté ici-bas. Si elle se pense comme indépendance, elle se pense comme ineffable, elle se pense comme sans rapport, elle est incompréhensible. C'est Calimero, personne ne m'aime. Personne ne me comprend, c'est trop injuste, le monde il est trop dur. Je sais pas quoi. Enfin, le sujet ineffable qui refuse toute détermination, toute entrée en relation. Donc il nous faut une pensée de la liberté qui soit plus riche que celle de la seule indépendance. Donc ça, c'était pour l'indépendance. Alors il faut progresser. Et on va vers la détermination, voire même la relation à Dieu comme source de détermination. Alors, nouvelle étape, c'est la liberté comme puissance qu'il faut essayer de domestiquer un peu. Parce que pour l'instant, on l'a juste caractérisée comme puissance d'indépendance, mais ça ne suffit pas. Donc on a besoin de... c'est comme si on donnait la parole à la liberté, on me disait, mais de quoi tu as besoin ? De quoi tu as besoin pour qu'on dépasse ce premier visage du pur se libérer, de la pure indépendance ? Donc la liberté prend la parole, et elle dit, ben voilà ce dont j'ai besoin. Elle dit, j'ai besoin de mesure et de démesure. J'ai besoin des deux. Si vous me captez, alors je ne suis plus moi-même. Et je me suis évanoui. Je suis la liberté, j'ai besoin de démesure. Et en même temps, j'ai besoin de mesure, parce que si vous ne me mesurez pas, si vous n'avez aucun outil pour me mesurer, je vais m'éventer comme un flacon d'alcool qu'on n'aurait pas rebouché et qui s'évente. Donc j'ai besoin de l'infini, de la démesure, mais j'ai aussi besoin d'une logique interne pour pouvoir vivre et me déployer. Donc j'ai besoin d'un terrain de jeu infini, mais j'ai besoin d'une structure. C'est hyper intéressant parce que quand on parle de la liberté, en fait, on parle de nous. On a besoin de mesure et de démesure. Alors, qu'est-ce que veut dire ? On prend la première étape, besoin de démesure. Alors, je lis un petit peu un passage de ma thèse pour essayer de fixer les choses. La liberté est portée par une force, l'esprit, cette force qui défiant tout encerclement, brisant toute clôture, rompant toute résistance, passe infiniment. Comme disait Blaise Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. L'esprit passe infiniment toute mesure. Donc passe infiniment victorieux d'une lutte du désir contre la mesure. C'est le désir comme puissance qui va soutenir la liberté dans sa soif de démesure. Victorieux d'une lutte du désir contre la mesure. La liberté, c'est ce fruit de l'esprit qui, lorsqu'il peut éclore, subsister et régner, signale une victoire dont il est vraiment juste de se réjouir. Parce que ce fruit de l'esprit signale une victoire, car son éclosion, l'éclosion de la liberté, l'éclosion de ce fruit, elle est fragile, elle n'est jamais garantie. Et le risque est réel de s'arrêter en chemin et d'interrompre le passage par lequel l'homme passe l'homme. En fait, la liberté périt lorsqu'elle est passée au tamis d'une ambition mesurée ou d'un besoin déterminé. La liberté doit être démesurée et indéterminée. Ainsi, l'esprit qui est cette puissance qui transgresse le rigide, le fermé, le déterminé, se voit réduite à l'impuissance lorsque le désir qui l'anime se consume et s'éteint, lorsque règne exclusivement la mesure, lorsque résonnent seules les interdictions d'un monde fermé et organisé, d'une rationalisée mécanisée. Alors, pour dire cette démesure, ou plutôt, en ayant fait cette analyse philosophique, Bruyère, et ça il l'écrit, donc il publie sa thèse en 64, donc il a sa première armature intellectuelle, il a 32 ans à ce moment-là, publie cette thèse, et il dit « la liberté a besoin de démesure ». Et là, arrive, 4 ans plus tard, la confirmation de son diagnostic. En tout cas, il écrit un article pour ça, pour réagir. Donc, il écrit un article en décembre 68 pour réagir aux événements du printemps 68. Et il dit, ben, en fait, c'est très simple. Le monde face auquel les gens se trouvaient était un monde complètement livré à la seule puissance d'administration des choses. Le monde était en train de se clore sur lui-même, étouffant la liberté. Alors elle crie. Donc, un point pour ceux qui font mai 68. Un point, mais c'est intéressant de... Parce que je pense qu'on est un peu dans un moment 68 aussi, d'une certaine manière, plus diffus, mais il y a besoin d'une démesure. Ça, c'est intéressant. Alors voilà, donc du coup, la question est, voilà, comment maintenir la source vive, le flot continu? Comment faire droit à la nécessité pour la liberté humaine d'une démesure, d'une illimitation, d'une indétermination que semble lui interdire ce monde fermé et organisé? Ok. Un point pour Gay-Lussac. 68. Maintenant, il faut une mesure. Il faut une mesure, un été et un soutien. Pourquoi? Parce que le risque, c'est pas simplement le risque d'une clôture et d'un épuisement du désir dans un monde trop étroit, mais le risque est aussi dans son contraire, dans l'illimitation même, dans l'indétermination, par laquelle l'esprit prétend se libérer de ceux qui tentent de le circonscrire. En fait, il faut énoncer cette démesure. Rien que d'assumer cette démesure, ça va appeler l'autre force que le désir, ça va appeler le langage. Le langage doit prendre en charge cette démesure. Parce que si le langage ne prend pas en charge cette démesure, cette soif de démesure n'est plus qu'un cri inarticulé. Et un cri inarticulé, c'est le premier pas d'un geste violent. Donc là, un point pour ceux qui critiquent mai 68, en disant, mais regardez, les slogans sont absurdes. Il faut, je sais pas quoi, rendre l'existence belle ou je sais pas quoi. Enfin, donc du coup, il prend... Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, interdire, je sais plus quoi. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, là, il dit, bah, en fait, là, ce sont que des cris. Ce sont que des cris. Et il manque le langage capable de mesurer la démesure. Je vais pas dire démesure versus mesure, mais il faut injecter la mesure dans la démesure. Vous voyez le truc ? Il faut mettre la logique dans la soif d'infini. Il faut que cette soif d'infini, elle possède une espèce de force. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elle est informe, lorsqu'elle est méconnue, l'énergie de l'esprit n'est plus que violence, un jaillissement inarticulé qui accuse la défiance à l'endroit d'une rationalité qui l'enserre et la menace, et le menace. Alors, troisième étape dans cette espèce de bataille entre mesure et démesure, le problème c'est quoi ? Et ça, pour le coup, le diagnostic de Bruyère est très fort. Il dit... C'est la première fois de l'histoire de l'humanité. Donc là, il ne parle plus de mai 68, il parle d'une époque qui est sans doute encore la nôtre. Il dit, OK, bah, entre mesure et démesure, là, en fait, on est à un point problématique pour Bruyère. Donc là, je vous lis une petite phrase de Bruyère. Il écrit, avec pas mal de pathos, d'insistance, il écrit, « Pour la première fois, la demande d'esprit, la requête de liberté de l'esprit humain, n'est plus... simultanément, consubstantiellement, une demande de raison, d'exercice autonome de la raison. Voici que la rationalité n'apparaît plus comme une arme de la liberté. La rationalité semble hostile et menaçante. C'est qu'elle semble captée par l'organisation systématique de l'économie, par les nécessités de la technique, par la substitution de l'administration technocratique des choses au gouvernement des hommes. En fait, normalement, dans une époque normale, la liberté exprime son désir de démesure, l'esprit prend la parole pour dire « je veux un ailleurs, je veux un au-delà, je veux un, si on le prend en spiritualité ignatienne, je veux un magis, je veux un davantage. » Et normalement, dans une époque normale, la rationalité prend naturellement le relais de cette demande d'infini. La rationalité maintenant est confisquée et rivée à l'administration des choses. Elle est rivée à l'écriture de lignes de code. La rationalité, elle est à l'école 42. C'est une bonne école, hein, mais il n'y a pas, il n'y a plus le relais de la demande d'infini. C'est hyper intéressant. Il y a besoin de réconcilier liberté dans son infinité, dans son irrationalité, dans cette soif démesurée, et il faudrait que la rationalité ou le langage redevienne un auxiliaire du désir. Voilà. Parce que la demande d'esprit qui n'est pas en même temps consubstantiellement, le mot est très fort, c'est un mot théologique, La demande d'esprit qui n'est pas consubstantiellement demande de raison risque n'être guère qu'une invocation vague, qu'un cri, qu'une violence. Il faut au philosophe affronter la dislocation du lien qui semblait pourtant consubstantiel et qui garantissait alors la rencontre de deux demandes qui désormais ne sont plus simultanées. Il lui faut questionner cette rationalité qui paraît maintenant hostile et menaçante. Comment l'est-elle devenue ? Il lui faut aider les hommes qui aujourd'hui demandent à reprendre souffle. Parce qu'en fait, quand je désire un ailleurs, je désire un ailleurs, je désire un ailleurs, et je n'ai pas les mots pour dire cet ailleurs-là, je m'essouffle. Et j'ai besoin donc de reprendre souffle, j'ai besoin d'un second souffle. Et pour l'instant, dit Bruère, les hommes ressemblent à des esprits qui courent après leurs ombres. Donc comment retrouveront-ils quelque consistance ? Alors voilà, bon, je vous propose une dernière étape qui va être un peu conclusive pour essayer de rassembler du coup le résultat. Là, je vous ai introduit à la problématique de Bruère, et maintenant je vais vous proposer le résultat. Le résultat, c'est que Bruère va essayer de forger un concept de liberté, encore une fois je vous l'avais dit simplissime, et vous avez maintenant les ingrédients pour le comprendre. Pour le comprendre, il dit « la liberté est faite de deux notes ». On dit un peu comme, vous savez, quand on fait de l'ecclésiologie, on dit les notes de l'Église. Qu'est-ce que l'Église est ? Elle est une sainte catholique apostolique. C'est les quatre notes de l'Église. Ce sont en fait, c'est ce qui compose un accord. Comme si la liberté était un accord musical, mais juste un accord de deux notes. Qui sont des notes qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais donc la liberté, c'est en fait, ou c'est une polarité. La liberté, c'est un concept polaire, dans lequel il y a deux pôles. C'est comme une ellipse avec deux foyers. Donc, il y a l'indépendance comme étant une des notes intrinsèques de la liberté, et d'autre part, la détermination. Donc voilà le concept de liberté tel que Bruère le forge. Donc il dit, la liberté, pour être complète, elle doit être puissance d'indépendance et puissance de détermination. Et évidemment, passage de l'un à l'autre. Voilà le résultat. Alors, comment est-ce qu'il va conquérir ces deux notes ? Tout le travail de ma thèse de la deuxième partie, c'était de dire, ok, mais là, cette définition, elle est trop belle pour être vraie. Donc là, vous avez fait un certain nombre de problèmes, et puis là, vous sortez de votre chapeau un concept de liberté qui est composé d'indépendance et de détermination, mais d'où viennent ces deux notes ? Elles sont des notes ad hoc pour résoudre vos problèmes. Alors j'essaie de montrer que non, en fait, il fait une généalogie de la note d'indépendance dans le dialogue entre liberté et désir à l'aide du langage. Et puis il fait une généalogie de la note de détermination dans le dialogue entre liberté et langage à l'aide du désir. Ça, c'est la cuisine interne bruérienne, juste pour vous dire que ces deux notes, indépendance et détermination, elles sont le fruit d'une réflexion sur l'existence humaine, l'existence réconciliée. Et par ailleurs, c'est ça qui est fascinant, ces deux notes, elles conviennent à la liberté de Dieu, puisque en Dieu, on trouve aussi indépendance et détermination. Alors, je résume. Le problème le plus grand, c'est comment faire pour que la liberté convienne et à nous qui sommes des petites créatures, et à Dieu qui est quand même un grand créateur. Comment est-ce qu'un même mot peut convenir aux deux parties, sachant qu'il y a une différence infinie entre nous et Dieu ? Si jamais on a un même mot des deux côtés, on a un problème métaphysique énorme. C'est qu'on a subsumé sous un seul concept deux réalités, et donc du coup on les a égalisées. Vous voyez, subsumer, ça veut dire tu fais une accolade, et dans ton accolade, il y a « et l'homme et Dieu ». Et au bout de l'accolade, là où ça se rejoint, tu écris « liberté ». Donc tu distribues la liberté et à l'homme et à Dieu. Mais d'où t'es le distributeur entre Dieu et l'homme ? T'as pas le droit. D'où ton esprit ? Donc si tu fais ça, c'est-à-dire que ton esprit se penche plus grand que Dieu. Ce qui donne des points. Donc ça, c'est un problème, c'est le problème de l'univocité. Il ne peut pas y avoir d'univocité entre nous et Dieu. Les mots ne peuvent pas être exactement les mêmes. L'autre problème, c'est l'équivocité. On dit, Dieu, il est libre, nous, on est libre, mais c'est pas le même mot, en fait. On peut pas, en tout cas, si c'est le même mot, il a pas le même sens, du tout, pas du tout le même sens, pas du tout, du tout, du tout. Équivocité. Donc là, on a plus d'accolade, et Dieu flotte très haut, et on le connaît pas, et nous, on est là très en bas, et on se connaît que nous, et on a du mal. Donc il faut trouver une solution, c'est de à la fois de penser ensemble Dieu et l'homme, et au moment où je les pense ensemble, je fais droit à l'infinie différence de Dieu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analogie, la doctrine de l'analogie. C'est une doctrine qui est cardinale pour la théologie catholique, qui est très simple, qui dit, là où il y a de la ressemblance, il faut qu'il y ait plus de dissemblance. Donc il faut Du coup, si on revient au concept de liberté, il faut qu'au moment où j'ai forgé, je m'appelle Claude Bruyère, j'ai forgé mon concept de liberté polaire, je veux toujours l'attribuer et à l'homme et à Dieu, puisque je crois au face-à-face entre l'homme et Dieu, comme de, entre de la liberté à la liberté. Mais il faut qu'au moment où, où j'applique ce concept à Dieu, il faut que le concept polaire puisse porter une différence infinie. Il faut qu'il puisse, au moment où je l'applique à Dieu, s'ouvrir. Et non pas que ce soit une accolade qui est fermante. Que ce soit une accolade, mais qui est ouvrante. Je suis pas un grand mathématicien ou un grand logicien, mais vous voyez le truc. Donc, Bruyère, avec son concept d'indépendance et de détermination, il dit, ben, ce concept, il vaut pour l'homme, il vaut aussi pour Dieu. Mais la, comme on dit, la diff, c'est quoi ? La différence, c'est que, en Dieu, indépendance et détermination coïncident parfaitement. Donc, la liberté de Dieu va recevoir un adjectif que je vais vous donner dans une seconde. En nous, indépendance et détermination ne coïncideront jamais parfaitement. Du coup, notre liberté reçoit un autre adjectif qui est vraiment très 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 différent de l'adjectif qu'on va appliquer à Dieu. La liberté de Dieu, elle est absolue. C'est une liberté absolue. Notre liberté, on pourrait dire, ok, ben, absolu, relatif, le binôme, je le connais. Du coup, notre liberté, elle est relative. Oui, mais le problème, c'est que une liberté relative, c'est quoi ? C'est pas une liberté. Donc au moment où on dit la liberté absolue à Dieu, on est en tension, parce que du coup, on est prêt à ne pas reconnaître que nous, nous sommes libres. Si on dit la liberté absolue, elle est pour Dieu, mais, donc elle n'est pas pour nous, mais en fait, il n'y a pas d'autre liberté que la liberté absolue. Enfin, regardez dans votre jeu de cartes, il n'y a plus de cartes, enfin, vous avez donné la seule carte à Dieu. Et une liberté qui n'est pas absolue, ce n'est pas une liberté. La preuve, c'était le pôle d'indépendance qu'on a travaillé. Alors du coup, Bruyère dit, et ça c'était tout le travail de ma thèse, je suis allé chercher, il emploie une fois cet adjectif à liberté, mais ça suffisait pour gagner, parce que je pense que c'était, pour moi, ça validait ma lecture. Il dit, notre liberté, elle est difficile. Difficile. Elle est difficile. Parce qu'en nous, indépendance et détermination ne coïncident pas. On passe notre temps à nous reprendre. On passe notre temps à galérer de l'indépendance à la détermination. Notre non ruine notre journée, on n'a pas réussi à dire oui. Ou alors on a trop dit oui, il faut qu'on réapprenne à dire non, parce que sinon on va faire un burn-out. En fait, on n'y arrive pas. Après, on pourrait exemplifier cette liberté difficile à partir de cette analyse conceptuelle de plein de manières. Mais je vais garder le schéma un peu logique conceptuel. Dieu, puisqu'il est liberté absolue, il est cercle qui coïncide avec soi-même. L'indépendance et la détermination se rejoignent. En gros, il passe dans sa détermination sans perdre son indépendance. Donc derrière, Bruyère va tricoter une sorte de théologie ou de philosophie trinitaire qui lui permet de penser les rapports père-fils-esprit. Parce que dans ce cercle-là, il y a l'ébauche d'un mouvement trinitaire. Le père donne infiniment au fils, mais le fils rend tout de suite, et l'esprit en fait, fait une espèce de coïncidence parfaite qui fait qu'il n'y a pas d'écart temporel. Donc dans le cas d'une liberté absolue, on peut la travailler conceptuellement pour essayer d'avoir comme un chiffre trinitaire qui arrive. Nous, le cercle, il ne se rejoint pas. Il ne se rejoint pas. En nous, il y a une tache aveugle. Notre cercle, il n'est pas lumineux. Au moment où ça se rejoint, boum, ton cercle est lumineux. Non, ben nous, ça ne se rejoint jamais, donc on n'est pas lumineux. On n'arrive pas totalement à passer totalement de notre indépendance à notre détermination. Pour exemplifier ça, le moindre acte que nous faisons, même le plus sincère, ne reflète pas entièrement la personnalité que nous sommes. Donc mon acte n'est jamais vraiment mon reflet fidèle. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon si je fais un acte mauvais, c'est que je suis totalement mauvais. Non, en fait, je peux me confesser. Vous voyez le truc. Mais en fait, pour les artistes, pour les créateurs, j'aimerais que tout mon génie passe dans cette thèse, dans ce tableau que je fais. Mais en fait, non, même mon intuition d'artiste n'est pas totalement dans le tableau. Sinon, notre détermination qui est le tableau reflèterait complètement notre originalité totale, etc. Alors pour dire ça, j'ai trouvé une petite phrase, une phrase d'Alcméon de Crotone, qui est un vieux grec, cité par un philosophe et théologien, alors qui n'était pas Bruyère, mais qui s'appelle Éric Pchivara, donc il cite Alcméon de Crotone. Il n'appartient pas à la main humaine de saisir l'origine et le but dans un anneau. Il n'appartient pas à la main humaine de saisir l'origine et le but dans un anneau. C'est-à-dire que la main humaine ne pourra pas elle-même tracer le cercle de Dieu. Mais la main humaine ne pourra pas elle-même tracer un cercle qui va de soi à soi, c'est-à-dire de son origine à son but. Elle n'y arrivera pas. Elle est vraiment, il y a une tâche aveugle. Elle ne sait pas d'où elle vient, cette liberté. Elle ne sait pas exactement où elle va. Une puissance d'indépendance lui a été donnée, et obscurément, elle comprend que cette puissance d'indépendance est faite pour se déterminer, c'est-à-dire pour donner sa vie. La dernière étape, c'est toute la troisième partie de ma thèse, et ce sera vraiment la conclusion, Bruyère va travailler ces deux notes, indépendance et détermination, espèce d'armature logique, et il va poser sur ces deux notes-là, qui sont pour l'instant très logiques, c'est quasiment une espèce de figure logique, il va placer ce que j'appelle un augment spirituel sur ces deux notes-là, une espèce de surdétermination de ces deux notes, indépendance et détermination, pour comprendre que derrière la note d'indépendance que nous éprouvons dans notre liberté, il y a la catégorie de substance. Mais de substance, non pas qui s'est auto-créée, mais de substance qui a été donnée à elle-même par Dieu. Donc Bruyère va être philosophe du don d'être. Donc l'indépendance que j'éprouve dans le moindre acte de ma liberté devrait être un hommage au don reçu de l'existence au moment de ma création. Vous pouvez retenir ça. L'indépendance que j'exerce dans tout acte de ma liberté qui se reprend devrait être en syntonie, devrait être un hommage à la particularité singulière de la substance spirituelle que je suis. En fait, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que quand je dis non, c'est parce que en fait, je suis différent du reste. Mais je ne suis pas différent parce que je m'imagine différent, ou je me rêve, ou je me projette différent, parce que je reconnais Dieu comme mon créateur qui m'a donné à moi-même. Donc ça, c'est l'augment spirituel sur la note d'indépendance. Ça va être la revisitation de la catégorie de substance, qui va être une catégorie profondément relationnelle. Parce que substance, c'est reçu, esprit reçu de Dieu. Et puis, sur la note de détermination, l'augment spirituel ou le chapeau spirituel, l'esprit que Bruyère fait reposer sur cette note-là, qu'il a découvert dans le mouvement même de la liberté, c'est le concept de destinée. Donc c'est le se déterminer, mais pour toujours, dans une promesse et dans une relation. La destinée. La destinée, c'est le contraire du destin. Le destin, force aveugle qui s'empare de ma vie. La destinée, c'est hommage pour toujours de ma liberté. Qui se fixe. C'est le thème de l'état de vie, c'est le thème du sacrement, c'est le thème de la promesse, c'est le thème d'un engagement qui donne sens, destiné. Et donc nous sommes des êtres spirituels substantiels et appelés à une destinée éternelle. Donc derrière, on voit que Bruyère pense à la fois à la création et la vocation. Il est un penseur de l'origine et du terme. Du coup, quand on cite Alcméon de Crotone, là, il n'appartient pas à la main humaine de saisir l'origine ni le but dans un anneau, c'est que je ne peux pas totalement recourber mon origine que j'aurais complètement percée à jour et ma destinée que je comprendrais totalement. Du coup, on comprend que mes actes d'indépendance et de détermination se feront non pas sur un cercle qui coïncide avec lui-même, mais soit dans un cercle creux, soit, si vous pouvez aplatir le cercle, une droite dont je ne connais pas tout à fait l'origine. C'est le tâche aveugle à l'origine de mon être, mais je sais que je peux être en gratitude par rapport à cette origine. Et puis, je ne connaîtrai pas tout à fait la fin, ce qui me sera donné de vivre. C'est la fameuse question qu'on trouve chez Aristote. Priam a-t-il été heureux ? Ben oui, il a été heureux toute sa vie, mais à la fin, il a tout perdu. Donc, est-ce qu'on peut dire que Priam a été heureux, le roi de Troie ? Ben, il a été heureux toute sa vie, mais à la fin, il n'a pas été heureux. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été heureux ? Ben, en fait, il faut attendre la fin, il faut attendre la mort pour savoir si quelqu'un était vraiment heureux. En fait, de la même manière, la destinée, je ne sais pas trop vers quoi elle me conduit, mais je suis capable de la choisir librement. C'est le grand, grand paradoxe de la liberté, qui est capable de se donner. Voilà. Et donc, du coup, je m'arrête là, et il est grand temps de poser des questions si vous n'êtes pas trop assommé. Et voilà. Et peut-être juste une dernière ligne de conclusion. Être libre, c'est se libérer de tout sauf des conditions de la liberté. On a nommé le corps, on a nommé l'organisation civile, on a nommé le langage et le désir, mais au fond, c'est ce que je dis dans ma thèse, être libre, c'est donc se libérer de tout, sauf de Dieu et de ses dons. Donc du coup, la liberté, de fait, arrive à son apogée lorsqu'elle est non pas libre de Dieu, mais libre avec Dieu ou libre pour Dieu, en réponse à Dieu qui s'est donné à elle. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci pour cette question. Ça me permet de clarifier un tout petit peu. De fait, dans le mouvement d'introduction de la conférence, j'ai mis 3 étapes, mais en vrai, c'est plutôt 2 et 2 autres. C'est-à-dire qu'il y a d'abord conquérir l'indépendance et la détermination comme étant constituante de ma liberté, et pour, qu'on pourrait dire en langage Vatican II, une juste autonomie des réalités créées. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, il a donné à chacun indépendance et détermination. Après, la manière dont petit à petit cette compréhension de ma liberté se fait, là c'est des étapes que chacun va vivre. Et puis ensuite, il y a une deuxième relation duelle qui va se nouer, ensuite, c'est-à-dire par ailleurs en philosophie, qui sera la reconnaissance du face-à-face entre ma liberté et une autre liberté. Et donc du coup, l'affirmation de la liberté de Dieu, ou l'affirmation de Dieu comme libre. Ça, ce sera autre chose. Après, pour en effet ce rapport entre indépendance et détermination, j'aime beaucoup ce mot d'oscillation, qui dit bien en fait l'armature polaire du concept, qui est vraiment un concept polaire, mais ça dit bien aussi la vie qui se déploie. Et Bruyère, en travaillant Bruyère, je me dis, mais en fait, au fond, qu'est-ce qu'il dit? Parce que d'un côté, c'est un esprit hyper logique, quasiment quelquefois desséchant, enfin c'est dur à lire. Et de l'autre, on sent que sa logique, elle n'est jamais gratuite. Elle n'est jamais purement intellectualiste. Elle est pour attraper la vie, ou pour désigner la vie. Donc de fait, quand il fait ce concept polaire, il dit, ben, il y a la puissance du oui, la puissance du non, il le fait afin de rendre hommage à cette vie en nous qui est obscure, qui n'est jamais si logicisable que ça. Et en fait, on voit qu'on est ballotté d'indépendance en détermination, que c'est jamais fluide, que ce ne sera jamais parfaitement logique. Donc du coup, c'est cette espèce de lumière logique et une lumière diffuse dans l'épaisseur charnelle, vivante, etc. Ça me paraît important de le souligner, parce que c'est vraiment à la fois faire honneur à Bruyère et honneur à la vérité aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pure armature logique. Et donc à un moment, quelquefois, il dit, ben, le concept de liberté, c'est bien gentil, je vais essayer d'en faire un, mais au fond, la liberté, elle ne sera jamais réduite à un concept. Donc du coup, il faut que le moment conceptuel dans la liberté, le moment mesure, soit au service de la démesure. Elle soit juste une espèce d'armature logique pour mieux comprendre la démesure à laquelle on est appelé. Bon, je ne sais pas si ça répond un petit peu.
Merci.
Oui. Oui, et puis ensuite. Ou là, ici, et puis ensuite.
Moi, j'ai une question sur un point dont vous m'avez parlé, notamment dans le passage où Bruyère commente, il fait son constat sur ce que ça s'est révélé, une façon suite, etc. Que l'exigence de liberté se passe désormais dans la finalité, je peux comprendre, mais pourquoi il semble que pour lui la liberté a disparu de la rationalité? Qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que ça signifierait de récupérer une liberté dans la rationalité?
C'est une bonne question. Ce diagnostic brûlérien, on pourrait le prendre à revers, dire mais pas du tout et tout ça. Lui, ce qu'il frappe, c'est que, pour le dire d'un autre mot, et dans un. Là, parce que là, ça, c'était ce que j'ai lu, et ce à quoi vous faites référence dans votre question, correspond à un peu Bruère qui a 30, 40 ans, et puis après, à 50 ans, il écrit ce livre superbe qui s'appelle L'être et l'esprit, où il dit à peu près la même chose, mais en des termes différents. Donc c'est un petit pas chassé. Il dit « L'esprit, aujourd'hui, n'a plus d'être. » Et c'est ça le drame. Il faudrait que l'esprit en nous, cette part spirituelle en nous, ne soit plus si indéterminée. Pour l'instant, quand on dit « esprit », on dit le vague, le subjectif, le sentiment, l'émotion ou l'atmosphère... On dit éventuellement quelque chose de religieux, mais en fait, ça n'a plus de consistance comme catégorie opératoire. Et donc, du coup, à ce moment-là, l'esprit, du coup, est indéfinissable, on ne sait pas trop ce qu'il cherche. Voilà. Et donc, du coup, il dit qu'il faudrait comprendre ou réarticuler l'être de l'esprit. C'est-à-dire donner à cet esprit, ou reconnaître ce qu'il y a de forme dans cet esprit. Encore une fois, ce qu'il y a de logos dans le pneuma, quoi. Si on parle grec, l'espèce de pneuma, là, en fait, il faut qu'il soit avec Logos. Quand on regarde Jésus, on se dit, mais voilà, il est Dieu, et ce Dieu, en fait, me parle. Et ce qu'il dit est sensé. Donc si c'est sensé, c'est-à-dire que ça s'adresse aussi à mon intelligence. Pour Bruyère, c'était un des points les plus importants. C'était, en fait, un des enjeux, notamment de Fides et Ratio, c'était que les chrétiens ne soient pas juste dans Fides, mais qu'ils se risquent dans Ratio aussi. Donc on voit qu'il est préoccupé par cette rationalité qui est à reconquérir. Parce que en fait, il faut faire hommage au logos. Alors la rationalité dégénérée, il ne prend pas ce mot-là, mais en tout cas qui a oublié cette grande vocation de dire les grandes choses, c'est une rationalité qui est devenue technocrate. C'est-à-dire qui se réduit et qui se réduit à l'administration des choses. Et qui gère le matériel. Alors, il y a des pages où il diagnostique cette espèce de scission dans l'esprit. L'esprit qui rêve de l'ailleurs, l'esprit désir. En fait, c'est scindé avec l'esprit logique ou l'esprit comptage. Entre une hippocagne et une école sérieuse. Non, honnêtement, je blague, mais je fais hippocagne. Mais vous voyez, quelquefois, on est le conflit. Non, mais fais des maths, plutôt. C'est quoi, c'est littéraire? Ils sont dans le vague, c'est des poètes, quoi. Mais en fait, est-ce que les littéraires peuvent dire des choses précises? Moi, je pense que oui. Mais parce que j'ai lu. Parce que j'y crois. Mais ce que je veux dire, c'est. En fait, la rationalité dominante se passe d'esprit. Mais une rationalité qui se passe d'esprit, c'est une rationalité qui est à moitié, qui est défigurée. Comme si on prenait juste le gosse et que le gosse, on le plaquait du côté du compter ou du calculer, alors qu'en fait, Logos, c'est le Fils de Dieu qui répand l'esprit. Il faut unir Pneuma et Logos. Oui.
C'est une petite question très courte, en forme de petit caillou dans ma chaussure. Vous avez posé la liberté de Dieu, la liberté de l'homme. Pour bien voir comment marche votre système, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous verriez la liberté de l'ange?
En fait, c'est marrant parce que de fait, c'est pas tant un caillou dans ma chaussure, parce que j'ai pas de chaussure. C'est plutôt dans la chaussure de Bruère. C'est un de ses points faibles. C'est que en fait, il pense peu. Mais c'est intéressant parce que je vais faire un ricochet. Il pense peu l'ange, comme il pense peu la nature. C'est-à-dire qu'il est brûlé philosophiquement par ce face à face entre l'homme et Dieu. Parce qu'il dit en fait, c'est ça que je pense. Mais il pense peu quelque chose qui s'appelle cosmos. Et pour pouvoir penser les anges, un peu à l'école d'un Bouillet ou d'un Newman, en fait, il faut pouvoir penser davantage cosmos. Et lui, Bruère, est pris dans l'opposition entre esprit et non-esprit, et il pense surtout la condition d'existence de esprit. Et à ce titre-là, de fait, il a moins accès à l'esprit ange. Il en parle une fois ou l'autre, mais de fait, Et puis d'autre part, je pense qu'il ne fait pas de système de philosophie. Il essaie juste de réinjecter un peu de rationalité dans les requêtes de l'esprit. Mais à sa décharge, il n'a jamais d'ambition systématique. Mais c'est intéressant de rapprocher ange de cosmos. C'est-à-dire que tu penses l'ange à partir du moment où tu penses aussi la totalité. Bruyère n'est pas un penseur de la totalité au sens du cosmos, de la distinction des êtres et tout ça. Il est dans le face-à-face entre l'être de Dieu et l'être de l'homme. L'affirmation de Dieu. Est-ce que l'affirmation de Dieu donne un sens à mon existence ? C'est ça. Donc ça donne une métaphysique qui a une puissance, mais qui a aussi des limites. En effet.
Merci beaucoup.
C'est plus une remarque où je vais me faire tomber très très fort sur le sol, mais en t'écoutant, je me disais, au fond, le discours de Ratzmann de 2016, où au fond, il vient parler à l'université, et il vient dire, parce que le discours de Ratzmann est resté célèbre, parce qu'il commente un dialogue entre un byzantin et un musulman, et donc ça a fait brûler beaucoup d'églises en retour et en répression. Mais au fond, ce qu'il disait, il ne s'adressait pas tellement au point de départ de l'islam, il parle à une université européenne, et il vient dire, si vous ne mettez pas la théologie au milieu, c'est-à-dire si vous ne mettez pas au fond la relation de la relationnalité humaine à Dieu, votre raison va faire des horreurs, en fait.
Oui, tout à fait. Oui.
Et donc, en fait, on voit bien qu'il a exact... Enfin, je pense, je ne sais pas s'il connaissait, s'il a lu, etc. Et au fond, on sent qu'une des grandes préoccupations aussi de Benoît XVI, qui était aussi cette préoccupation du Logos, qui a été de dire, au fond, nous allons devenir fous si d'un côté, nous avons juste une raison qui compte, qui chiffre et qui administre, et puis de l'autre, en fait, le reste qui, du coup, est rejeté dans le fondamental, dans le fondamentalisme, dans le... Et au fond, il y a un enjeu énorme, en fait, de cette rencontre. Et du coup, je me dis, au fond, qu'il ait précisément parlé du Coran à ce moment-là, finalement, n'est peut-être pas un hasard, parce qu'il y a cette question de quelle est la figure de Dieu et quel est le logos de Dieu. Est-ce que Dieu est sur le logo ? Est-ce qu'il est avec une parole intérieure ? Je trouve que ce discours, du coup, après l'avoir écouté, prend une espèce d'autre profondeur.
Oui, en effet. C'est vraiment intéressant de... Il y a sur logos, langage, à un moment, Bruyère joue un peu sur les prépositions. Assez jeune dans sa thèse, sa première thèse, il dit... Et au fond, il y a le langage sur Dieu, c'est même parler de faire de la théologie, mais avant tout, il y a le langage à Dieu, qui est la prière. Et ce langage à Dieu va permettre de faire un langage sur Dieu, et même qu'il faut un langage pour Dieu, si on fait de l'apologétique, pour Dieu. Mais tout ça, en fait, est en dépendance du premier langage, qui est le langage de Dieu. Et donc, Dieu n'est pas sans langage. Et il essaye de montrer dans son exploration du concept d'absolu, en reflet, ou plutôt en puissance d'éclairage, notre requête de cohérence, notre requête logique. Et en fait, on peut penser qu'il y a en Dieu un langage. C'est pour reprendre le thème de rationalité. La rationalité n'est pas simplement un instrument pour gérer le monde, ou même pour gérer mes problèmes, la rationalité médicale, ou je sais pas quoi, mais c'est d'abord quelque chose qui est en Dieu. Et si c'est en Dieu, alors ça vient exaucer mon désir. Si on reprend cet article de mai 60, sur mai 68, qui est un article magnifique, qui est une belle porte d'entrée pour Bruyère, c'est OK, un point pour ceux qui disent que ce monde est trop petit et qu'il est enfermant. Après... aucune compromission par rapport à la violence et à l'absurdité des requêtes. Et donc, du coup, comment s'en sortir ? En fait, il faudrait que face à la demande infinie, il y ait, Lévinas aurait dit, un visage. Mais Bruyère dit, en fait, il faut qu'il y ait un sens. Il faut que l'existence se gorge de sens. C'est une belle formule. Il faut que l'existence se gorge de sens. Et ce sens, il vient de Dieu. Et c'est le seul sens infini. Normalement, un sens, c'est toujours fini. Parce que t'as ce sens-là, et puis tu dis, OK, ben en fait, moi, je délaisse ce sens-là, parce que mon esprit, il veut aller plus loin. C'est la force de la contestation. Ouais. Mais en fait, il y a un seul sens qui sera infini, Non pas qu'ils deviennent incontestables pour l'esprit, comme 2 et 2 font 4, parce que qu'on peut dire, imagine, non, en fait, non, je refuse les mathématiques. Voilà. Non, en fait, que ce soit un sens, pas incontestable, mais un sens qui est inépuisable. Et le thème du sens inépuisable, c'est Dieu. Enfin, après, on fait l'expérience comme consacré. Moi, j'aurais pas pu donner ma vie dans le sacerdoce si j'avais pas fait l'expérience que la parole que je suis appelé à commenter chaque dimanche n'est pas inépuisable. Il fallait que je fasse l'expérience de l'inépuisable de la parole. D'où l'exégèse, les 400 écritures. Mais en fait, au-delà des théories, c'est à chaque fois, c'est cette parole... La veuve qui donne 2 pièces, je sais pas. Enfin, quand j'aurai 50 ans de sacerdoce, je dirais bon encore cette vieille. Moi, je serais moi-même vieux. Enfin, je vais donner 2 pièces dans mon homélie en disant ben, je donne toujours la même chose sur cette homélie. Mais en fait, non. En fait, j'ai pas cette crainte. Si j'ai donné ma vie, c'est parce que Dieu est inépuisable dans sa parole même. Non, j'aurais pas pu. Et je trouve que ce thème du sens inépuisable est fondateur de toute, enfin, de l'Église, quoi. Voilà.
Et je trouve ça très parlant pour la mission, parce qu'en fait, on pourrait râler en fait, le réflexe qui pourrait être par rapport à la recherche de des mesures indépendantes en fait, d'une raison. Ça pourrait être nous d'arriver avec une espèce de surdétermination.
Ouais, ouais, ouais. De corset, en fait, quoi. Enfin, corset.
C'est qu'au fond, on est là aussi pour justement dire à quel point, à l'intérieur de cette mesure, on est capable de donner un sens qui répond à ce désir d'absolu.
C'est ça. Ouais.
Et que. Au fond, ce désir, est-ce que je vais être. C'est tellement dur de déterminer comme homme, comme femme, alors du coup, je vais prendre l'échappatoire du gender.
Oui, tout à fait.
Je blague toutes mes déterminations, etc. Et nous, on va venir dire il y a autre chose, il y a quelque chose qui vient compléter ce désir-là, avec une dimension, au fond, où ce que j'entends, c'est que du coup, notre réponse, c'est une proposition positive et pas une tape donnée sur la main.
Oui,
Et de ce point de vue-là, je pense que ça exige de nous, en fait, une position d'annonce qui, du coup, est pacifiée, en fait, par le fait qu'on s'appuie sur ce sens inépuisable, en fait. Et qu'on sait qu'on l'a, en fait, qui nous est remis par Dieu, quoi.
Exactement. Exactement. Je me souviens maintenant du slogan que Bruyère a dû repérer quelque part sur un mur en mai 68, même si à l'époque, il était enseignant à Tours, donc il n'était pas du tout dans les querelles parisiennes. C'est un slogan qui d'ailleurs a fait, je pense, à mon avis, la campagne de François Mitterrand en 81, c'était « Changer la vie ». Et la fin de son article de 68, il dit « Seul Dieu peut changer la vie ». Donc ouais, c'est intéressant parce que c'est pas ne pas changer, mais c'est en fait « Seul Dieu peut changer la vie ». Et à ce moment-là, Dieu et ses dons sont de fait les conditions de l'épanouissement de ma liberté. Et donc Dieu et ses dons, y compris, je sais pas, le corps qu'il m'a donné dans sa pauvreté, dans sa... la société qui m'a donné dans son imperfection, enfin, et donc là, à ce moment-là, il y a comme une recharge d'humble réalité que sinon la liberté aurait pu piétiner, mépriser. C'est vraiment intéressant, mais seul Dieu peut faire ça, en honorant à la fois le changement et la source du sens. Bon, voilà, c'était des bonnes questions.